Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Foot, puis Radio Jeu, unis dans la passion du ballon rond sur RFI. Le Cécifoot de nouveau à l'honneur dans quelques instants. RJI Radio Jeu International, votre rendez-vous spécial jeu paralympique, recevra deux invités absolument exceptionnels. D'abord un pionnier du Cécifoot, le football pratiqué par les déficients visuels en France. Il s'appelle Julien Zelella. Et Julien Zelella, eh bien, il est le mentor de la vedette, de l'une des vedettes du Cécifoot, de l'équipe de France. Une vedette qui, malheureusement, est privée de jeux paralympiques pour cause de croisés. Les croisés, tu connais cette vedette, c'est Yvan Wanji. Bonjour Yvan.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Alors, c'est non seulement un plaisir, mais aussi une magnifique surprise de vous recevoir, puisque il y a encore 10 minutes, vous n'étiez pas prévu au programme de cette émission, mais on a réussi à vous capter parce que Yvan Wanji, dans le Club France, c'est bien simple, tout le monde vient lui parler, tout le monde vient faire des photos avec lui, tout le monde le connaît, vous êtes tout de même une vedette de ces Jeux Paralympiques et donc c'est un honneur de vous recevoir. Bonjour Julien Zelella.
Bonjour Hugo et merci de votre invitation. Et bonjour merci, à tous et à tous.
Merci de l'avoir honoré. On a également deux autres experts exceptionnels sur ce plateau, vous les connaissez par cœur. Nabil Djellit, Patrick Juillard, bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour et bonjour à tous.
Le duo magique avec face à lui un autre duo magique. On a même trois duos magiques hein, dans cette émission ce mercredi. Je parle du duo pour le troisième que j'ai le plaisir de former avec Saliou, Scotty Pippen Diouf. Bonjour Saliou.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Quel plaisir de faire ma deuxième émission avec Dupont et Dupont. Ça aussi.
Ça leur plaît toujours pas. Au Djellit Julia.
Pourquoi pas.
Ce surnom.
Ça passe quoi. Bon.
Demain, ça sera peut-être mieux.
Ouais. Ok. On progresse. Vous, votre truc, c'est Starsky et Hutch. Bon. Voilà, on verra si on peut vous mettre ou pas le générique. Au sommaire de Radio Foot, parce qu'avant RJ, il y a Radio Foot, le Cameroun. Votre pays natal d'ailleurs, Yvan Wanji, et le Cameroun, ou plutôt les Camerounes en termes de football, puisque les luttes de pouvoir sont toujours aussi fortes, voire un peu risibles autour de la tanière des Lions indomptables, et puis hommage, entre guillemets, à Hasdine Ounahi. La France perd l'un des meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde, mais aussi l'un des plus gros flops de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille, c'est dire. Ne le prenez pas mal, Yvan Wanji. Si l'hymne camerounais dévisse un peu et que le disque est rayé, c'est parce que malheureusement, le football camerounais, si riche en talents, est de nouveau pollué par des querelles internes, de nouveau pollué par la querelle entre la FECAFOOT d'un côté, incarnée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports de l'autre. Tout a débuté au printemps dernier avec la nomination du Belge Marc Brice au poste de sélectionneur, au nez et à la barbe de Samuel Eto'o, qui n'a pas caché son mécontentement. Quelques mois plus tard, la crise reprend de plus belle à la veille des matchs contre la Namibie à Douala et contre le Zimbabwe à l'extérieur dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Bonjour Joël Wadem.
Bonsoir Hugo et bonsoir à tous.
Joël Wadem, notre correspondant à Yaoundé. Je parlais de Douala pour le prochain match. Douala comme lieu de rassemblement pour les joueurs, selon la FECAFOOT, pour les prochaines rencontres. Le ministère des Sports préfère la ville où vous vous trouvez. Yaoundé, deux villes, deux pouvoirs pour un cirque qui a repris de plus belle. C'est ça, Joël?
Oui, en fait, le prochain match se jouera plutôt à Garoua. Initialement, la FECAFOOT avait proposé le site de Douala. Site refusé par le ministre des Sports au prétexte qu'il y a de fortes pluies en ce moment à Douala. Et le ministre avait proposé Yaoundé, mais la FECAFOOT a demandé que le match se joue plutôt à Garoua. Et la FECAFOOT vient d'avoir raison puisque le Premier ministre a réuni les Lions indomptables ce matin et ils iront à Garoua dès demain.
Mais alors, concernant le lieu de rassemblement, en revanche, là, on a repris de plus belle les querelles et les dissensions.
Voilà, selon le programme de la FECAFOOT, les joueurs devaient arriver et se rassembler à Douala et devaient partir donc de Douala pour Garoua. Mais il se trouve que le staff technique nommé par le ministre des Sports est allé récupérer les joueurs à Douala. Il les a amenés plutôt à Yaoundé. Cela avec la complicité de l'entraîneur Marc Brice. Donc le rassemblement des 24 joueurs s'est plutôt déroulé à Yaoundé et la FECAFOOT mécontente a écrit aux différents clubs pour leur indiquer que les joueurs avaient déserté le regroupement. Et elle est allée plus loin en convoquant ce matin la sélection U20 qui était censée disputer le match de samedi prochain face à la Namibie.
Donc là, on a presque deux équipes camerounaises A parallèles, c'est-à-dire qu'on a celle que le ministère des Sports veut bien chapeauter avec Marc Brice, qui a Yaoundé, et puis du côté de la FECAFOOT, on essaye de la remplacer pour cause de. Parce qu'on la trouve déloyale par l'équipe U20. C'est à peu près ça ?
C'est exactement cela. Samuel Eto'o n'a pas digéré le fait que l'ensemble des joueurs soient allés en stage à Yaoundé alors que le regroupement devait s'effectuer à Douala. C'est ainsi que hier soir, il a réussi à monter la sélection U20. Et cette sélection U20 devait aller à Garoua aujourd'hui. Mais le Premier ministre a tout stoppé, a indiqué que les U20 n'iraient pas à Garoua et que finalement, ce sont les Lions Indomptables qui se rendront à Garoua. Mais Samuel Eto'o, qui jusque-là n'a pas digéré l'affront, envisagerait de mettre sur le banc de touche des Lions Indomptables samedi prochain un collectif d'entraîneurs camerounais. Il ne souhaite pas que Marc Brice soit sur le banc samedi prochain.
Et quels sont ses moyens d'action? Puisque, a priori, l'État, ministère des Sports, eux, continue de conforter Marc Brice qui a priori donc dispose des joueurs qui doivent normalement et qui vont former l'équipe A. Qu'est-ce qu'il va faire? On va de nouveau avoir ces menaces de ne pas accréditer, ne pas faire entrer Marc Brice et son staff et les joueurs dans le stade de Garoua.
Exactement, c'est encore la carte de l'accréditation que Samuel Eto'o voudrait dégainer. Donc déjà, sur l'affiche du match qui ira à la CAF, il s'arrangera à ce que Marc Brice et ses adjoints n'y soient pas. Et ce sont donc les entraîneurs qu'il aura mis en place, qu'il mettra sur la feuille de match, qui seront accrédités. Et ce sont eux qui devraient probablement être sur le banc de touche. À moins que le Premier ministre n'intervienne de nouveau pour remettre tout le monde dans l'ordre.
Alors, petite note d'espoir, hein, malgré un contexte déjà tendu, assez similaire finalement, en juin dernier, eh bien, le Cameroun avait battu le Cap-Vert largement et avait obtenu un nul en Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, Patrick Juillard.
Oui, donc, il avait fait un excellent match contre le Cap-Vert, comme si ce contexte d'ébullition avait un petit peu transcendé les joueurs.
On avait quand même eu Marc Brice sur le banc de touche.
On avait eu Marc Brice sur le banc, on avait eu une équipe plutôt cohérente, des choix plutôt gagnants avec notamment le retour de Ngadeu en défense qui avait marqué un but. Et finalement, en Angola, qui n'est pas à prendre à la légère, qui sortait d'une excellente CAN, le Cameroun avait bien résisté et ramené un bon point. Donc, moi, à mon avis, Marc Brice, il va se préparer en faisant abstraction de tout ça, même si ça paraît difficile. Et au final, il sera sur le banc et tout rentrera dans l'ordre. Eto'o, dans cette affaire, il défend un petit peu ses prérogatives à la manière qu'on lui connaît, c'est-à-dire... en montant très vite sur ses grands chevaux ou sur ses grands lions indomptables. Mais là, en l'occurrence, son coup de menacer d'amener les U20 à Garoua a plutôt fonctionné, puisque finalement, le gouvernement a, choisi Garoua, a tranché en faveur de Garoua, et donc là, maintenant, le Marc Brice et son staff vont obtempérer et vont aller à Garoua.
Quand il a voulu rassembler les joueurs à Douala,
le
ministère des Sports est même venu les chercher à l'aéroport pour les amener à Yaoundé.
Parce que le ministère et Marc Brice avaient dès le départ prévu un regroupement à Yaoundé, où d'ailleurs l'équipe s'est entraînée normalement hier.
Nabil Djellit.
Non mais je vous écoute et je me dis, mais est-ce que je suis dans un monde parallèle, quoi? Je me dis, mais quelle absurdité, cette histoire.
Vous êtes sur le continent, Nabil.
Non, mais...
En tout cas, il y a presque deux équipes parallèles.
On a le droit quand même à un moment de se dire, mais dans quel monde on est? C'est pas possible, quoi. Je veux dire, de continuer à offrir un tel spectacle qui ternit l'image du football camerounais et même continental, parce qu'il y a une lecture camerounaise, une lecture continentale, mais une lecture mondiale. Quand vous voyez que la viralité des images du conflit entre Eto'o et Brice a fait le tour du monde, c'est le seul angle qui a été utilisé pour parler du football africain en dehors de la dernière CAN. sauf quand on parle des joueurs et des stars. Déjà, bah, moi, je trouve que ça, il faut absolument que ça cesse et que les différents acteurs prennent en compte leur responsabilité dans la dégradation et dans l'image véhiculée du football africain, parce que ce n'est pas que le football camerounais. À aucun moment, on parle du match de foot, quoi. C'est un match de foot entre le Cameroun et la Namibie. On est en train de se perdre dans un jeu de piste. Attends, je suis là, attends... Où est Charlie? Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Je me cache là. Non, je vais jouer là. Tous les prétextes sont bons pour mettre l'autre dans la difficulté. Et je terminerai par c'est une relation toxique. Et quand les relations sont toxiques, il faut se séparer.
Il faut un divorce.
Il faut se séparer. Et la dernière sortie de Marc Brice, notamment dans la presse belge, a pour moi été presque une faute professionnelle.
Celle où il cartonne, entre guillemets, Samuel Eto'o.
Eto'o, oui. Et Rigobertson, qui n'avait rien demandé au passage et qui s'est pris
l'ancien,
une balle.
L'ancien sélectionneur
et qui s'est pris une balle
perdue. Capitaine. Nabil, ouais, Salut Diouf, voudrait, je crois, poser une question à Yvan Bondji.
Absolument.
Et pour cause.
Vous, Yvan, en tant que passionné de football d'origine camerounaise, comment vous voyez tout ce marasme? Est-ce que ça vous touche profondément ou pas?
Oui, effectivement. Bah déjà, je suis né là-bas, j'ai vécu jusque l'âge de 9 ans et demi, donc forcément, ça me touche. Et tout Cameroun aime le football. Et,
bien sûr.
Et je dirais que c'est un peu à l'image quand même du pays où il y a pas mal d'approximations. Il y a beaucoup de choses qui vont mal au Cameroun. Et voilà, comme on dit souvent, l'équipe camerounaise est le reflet du pays, du fonctionnement de la nation. Et je trouve que on se sabote tout seul, et on empathie. Là, on prépare pas le match, il y a que des problèmes dans les coulisses. Et n'oubliez pas, déjà, ça fait un moment que le Cameroun n'est pas bon sur le terrain. Même quand on a gagné la CAN en 2017, on a quand même réussi à trouver le moyen d'évincer le coach. Donc là, ça ira de mal en pis. Et sachant que les matchs sont des matchs à enjeu, donc on les prépare pas et on prépare pas les prochaines compétitions aussi. Telles que la CAN ou la Coupe du Monde. Donc, bien sûr que ça me touche et je pense que ça nous touche. Tout Camerounais est touché. Il faut faire quelque chose et je pense qu'il faudrait peut-être qu'Eto'o parte. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire.
C'est pas programmé, ça.
Ah non, sachant qu'il est très caractériel et je pense qu'il veut faire tourner la montre, sachant que là, on va trouver une solution pour le match de samedi, mais. À la prochaine sélection, au prochain regroupement, ce sera la même chose.
Il y a deux regroupements, un en octobre, un en novembre ensuite.
Donc, préparez
ça va être très intensif.
Préparez le pop-corn, c'est pas terminé.
En tout cas,
c'est une saga.
Beaucoup, merci beaucoup, Yvan Bondji, pour votre position assez tranchée, très clairement exprimée et très courageuse. J'espère que ça ne vous attirera pas des ennuis avec le grand Samuel Eto'o. Merci, Joël Wadem, également pour avoir planté le décor de manière extrêmement claire. Et on vous retrouve très vite sur l'antenne de RFI, le correspondant de la Radio du Monde à Yaoundé. Et puis, on suivra donc les prochaines aventures des Lions Indomptables en espérant que ce soit brillant sur le terrain parce que Dieu sait, ou même tout le monde sait, tout simplement, n'importe quel amateur de football sait,
ils en sont capables.
Que le talent est au rendez-vous et est toujours au rendez-vous du côté du Cameroun.
Gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido.
Le crochet magnifique, allez Azil, oh qui nous régale! Mais qui est ce monsieur? Mais qui est ce joueur? Azil Ounahi! Oh le festival du Marocain!
Souvenez-vous, en 2022, l'Espagne de Luis Enrique est éliminée par le Maroc en huitième de finale. Le Maroc, futur demi-finaliste. Et le numéro 8 des Lions de l'Atlas impressionne le futur coach du PSG. Mamma mia, il ne se souvient pas de son nom, mais qu'est-ce qu'il a été bon, ce petit. Azdine Ounahi, à l'époque, n'est qu'un joueur d'Angers, mais il explose à la face du monde avant de rejoindre Marseille un an et demi plus tard. Le Lion de l'Atlas retourne un petit peu dans l'anonymat puisque Azdine Ounahi rejoint le club grec, le club du championnat grec, le Panathinaikos. On se dit quand même que c'est un peu un recul, Nabil Djellit. Ouais. On va tout de même signaler entre parenthèses que le Panathinaikos prive depuis deux saisons les clubs français, dont Marseille, de Coupe d'Europe.
Oui, le Panathinaikos, c'est un grand club en termes de dimension populaire. Il y a de la ferveur, il y a une rivalité dans le championnat grec avec l'Olympiakos, avec le Athènes notamment. Mais un peu comme pour Victor Osimhen qui est aujourd'hui à Galatasaray, même si Unai n'est pas ballon d'or africain, c'est pas la trajectoire qui était attendue pour le Marocain. Je vous rappelle que lors de la Coupe du Monde qu'il a joué avec le Maroc, où il avait été excellent, fantastique, notamment dans les sorties de balles. Alors, faire attention parce que le football, c'est souvent de la spéculation et à ce moment-là, on l'a peut-être un peu surcoté, même si c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Il était à la une des médias espagnols, hein. Il était annoncé au FC Barcelone. Hein. Je vous rappelle, après, son mercato a été dicté autrement. Il y a eu des interférences, notamment dans son entourage, dans son environnement. Il a été récupéré par l'actuel directeur sportif d'Olympique de Marseille, qui était à ce moment-là son conseiller, Mehdi Benatia. Il a signé à Marseille pour 8 millions d'euros. Il est arrivé en hiver. Il a eu du mal un petit peu à s'adapter. Marcelino est arrivé. Il utilisait un 4-4-2. Il ne s'est pas forcément inséré dedans. C'est un garçon qui a des qualités, mais pour qui tout a été très vite. Vous parliez tout à l'heure d'Angers. Avant d'arriver à Angers, il était en national à Avranches. Il est passé de Avranches à Angers pour 75 000 euros. Il n'a jamais fait de saison complète à Angers. Et très vite, après cette Coupe du Monde, il y a eu un emballement. Et peut-être que ça a été trop vite pour Hasdine Ounahi, qui reste quand même en Europe, dans un championnat semi-compétitif, et qui reste aussi forcément dans les radars de l'équipe du Maroc, parce qu'on compte sur lui. Et je sais qu'il y a eu une pression qui a été mise par la fédération marocaine pour ne pas qu'il aille dans le golf.
Il y a quand même un sentiment de gâchis à l'aune de ce transfert, de ce prêt, parce que c'est un prêt au Panathinaikos, Patrick.
Avec une option d'achat à 11 millions et demi.
Oui, voilà, à peu près ce que l'OM avait payé.
Ce que ne pourra jamais payer le Panathinaikos.
Non, un sentiment de gâchis, oui. Moi, je me rappelle à l'époque où il avait signé, j'en avais discuté avec Nasser Larguette, qui le connaît bien, puis c'est le grand formateur de l'Académie Mohamed VI et qui avait été entraîneur intérimaire de l'OM, donc qui connaissait bien les deux facettes du problème. Et il m'avait dit, Ounahi a su montrer pendant un mois, dans un contexte de grande pression à la Coupe du Monde, qu'il pouvait répondre présent. Maintenant, il va devoir le faire au quotidien, tous les jours, puisqu'à l'OM, c'est à peu près un niveau Coupe du Monde termes de pression. Je pense qu'il en a les capacités, m'avait-il dit. Et malheureusement, le constat est que peut-être qu'il s'est trop vite découragé, peut-être que la concurrence l'a fait baisser les bras.
Des blessures aussi.
Et les blessures qui ont haché un peu ces saisons. Mais le fait est, malheureusement pour lui, qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes et que le pari de l'OM est un pari perdant pour l'instant.
Yvan Wandji, vous êtes un sportif de haut niveau. La régularité, c'est évidemment la clé du succès et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à atteindre, quel que soit le talent qu'on possède entre les pieds.
Oui, effectivement, quel que soit le talent, et c'est vrai qu'il a éclaté aux yeux du monde pendant la Coupe du Monde, enfin, notamment sur ce match contre l'Espagne, et derrière aussi un petit peu à Marseille, mais c'est vrai que la régularité n'a pas toujours forcément été au rendez-vous, mais on lui souhaite déjà le meilleur au Panathinaikos, et pourquoi pas rebondir, ça peut être un tremplin pour après soit revenir à Marseille ou dans un autre club français ou européen. Mais on note quand même que souvent, après les Coupes du Monde, Coupe d'Europe ou Coupe d'Afrique, il y a des joueurs qui ont fait de gros tournois, mais derrière, ils sont un peu retombés dans le rythme quotidien des matchs avec peut-être moins. C'est un joueur peut-être par à coup, par moment, à grand match, à grand enjeu, mais il n'a pas forcément cette régularité. C'est aussi un rituel de jouer régulièrement contre d'autres joueurs et de performer. C'est là qu'on voit que Messi et Ronaldo ont mesuré réellement leur talent.
Oui, parce que eux, ils
cette
ont
continuité,
été...
cette régularité, oui.
Il y a aussi le fait que durant sa deuxième saison, après les premiers mois, donc sous le règne d'Igor Tudor, il a eu deux entraîneurs différents, Nabil l'a dit, avec Marcelino et Gattuso, qui l'ont un peu baladé à des postes qui ne sont pas les siens, soit côté gauche avec Marcelino. Alors il y a eu un ou deux buts qui ont fait illusion, des fulgurances, mais sur la durée, il n'était pas consistant, il n'apportait pas ce qu'on attendait de lui. Et puis dans le double pivot de Gattuso au milieu, ça ne fonctionnait pas non plus, il manquait un peu de volume, de physique. Et donc finalement, il n'a pas trouvé sa place, quoi. Malheureusement pour lui.
Bon, il aura au moins sa place dans les livres d'histoire parce qu'il reste pour l'éternité l'un des meilleurs joueurs de la meilleure équipe africaine de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça a longtemps été le Cameroun. C'est vrai que le Maroc est allé un tout petit peu. Le Maroc est allé un tout petit peu au-dessus. Un tout petit peu au-dessus. Bon, ce sera pour plus tard pour le Cameroun, niveau Wanji.
Soit avec Eto'o, Marc Brice, mais pas les deux. Ou avec les U20. Hein.
Après, le Cameroun, c'est 5 Coupes d'Afrique des Nations.
Exactement, exactement. Ah, mais oui. On se prend à rêver d'un Cameroun géré de manière un tout petit peu plus rationnelle. Qu'est-ce que ça pourrait donner s'il y avait
5 cannes, voilà. Dont une gagnée au Maroc.
De meilleures structures. Bon, on laisse de côté le foot à 11. On va parler Cécy Foot. Dans Radio Jeu, ce sera de l'autre côté de la musique et on est content d'en parler avec vous, Yvan Wanji, et avec votre mentor, Julien Zelella.